Bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Associativement Vote avec Marlène et je reçois aujourd'hui Michel Grillet. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Académie de Baume de Venise. Académie de Baume de Venise, c'est aussi une association, c'est pour cela que je vous ai invité. Une association de conservation et de promotion du patrimoine. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, l'idée des fondateurs, il y a 40 ans, parce que l'association existe depuis 40 ans, c'était de développer l'aspect culturel de l'histoire de Baume de Venise et par le biais du patrimoine, c'est-à-dire l'idée de mettre en valeur tout le patrimoine balméen, qui est très très important, et par là même donc d'aborder tout l'aspect culturel qui est lié à ce patrimoine.
D'accord. Alors, je pense que pour être président d'une association qui n'est pas moindre, en plus le mot académie, pourquoi d'abord académie ?
Académie, la définition, c'est assemblée de personnes passionnées par un sujet afin de, je dirais, d'en développer l'histoire, d'en développer les règles et surtout d'améliorer la connaissance sur ce sujet. Et donc, c'est vrai que depuis qu'on travaille dans l'académie, on se rend compte que des vérités historiques qui ont été écrites au 19e siècle, par exemple, sont plus d'actualité. Parce qu'on a découvert d'autres éléments et qui font évoluer les choses. Donc, l'idée de l'académie, c'est effectivement de rassembler les gens passionnés pour avancer sur un sujet. Donc, il n'y a absolument rien de poussiéreux là-dedans, si vous voulez.
Alors, passionné, on va peut-être faire un petit récapitulatif assez rapide sur votre cursus, parce que je suis toujours intéressé par ça, oui. Pour la bonne raison que ça peut donner aussi envie aux jeunes ou aux générations à venir, de savoir comment on peut devenir président d'une association. Spécialement sur le patrimoine.
Oui, moi, mon métier de base, c'est l'architecture. Hein. J'ai eu un cabinet d'architecte donc à Grenoble, et je suis arrivé pour des raisons personnelles en Provence, et je suis rentré en contact de manière fortuite avec les gens de l'académie, puisque j'ai une maison qui est liée à une carrière de pierre, et les gens de l'académie cherchaient une pierre pour faire un modèle pour faire une reproduction, disons, d'une pierre tombale, et donc voilà, ils cherchaient des pierres dans ma carrière. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et j'ai été d'emblée passionné par ces gens-là, et notamment par l'ancien président, donc Philippe Coulon, avec lequel je me suis tout de suite très, très bien entendu. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé dans l'académie.
Alors, quand on va sur le site, c'est vrai qu'on voit ce fameux personnage. Est-ce que vous pouvez nous en dire aussi plus d'un mot, sûrement, parce que c'est une figure.
Oui, c'est une figure de Baume, son épouse aussi. C'est eux donc qui ont créé l'association il y a 40 ans. Et donc, Madame Coulon était chercheuse au CNRS en biologie cellulaire, et Philippe Coulon donc est docteur en sciences et doyen de la faculté des sciences d'Avignon. Il a publié énormément d'ouvrages à la fois scientifiques et historiques, notamment sur l'histoire de Baume, et il est encore, du coup, je dirais, très, très présent, même s'il est parti sur d'autres sujets aujourd'hui, qu'il a monté, donc, effectivement, sa propre réflexion, son propre site, et il continue à donner des conférences, mais plus en lien, effectivement, avec l'académie. Voilà.
Plus en lien avec cette académie.
Non.
Alors, comment on fait pour reprendre les rênes d'une association telle que celle-là ?
Ben, en fait, quand Philippe Coulon a décidé d'arrêter, hein, il était effectivement fatigué et lassé par tout ce travail de 40 ans. Moi, j'ai proposé en fait d'organiser une équipe autour de moi, parce que d'abord, je n'avais pas du tout ni les compétences, ni les connaissances, ni l'histoire de Philippe Coulon. Et j'ai proposé de reprendre l'association à condition qu'on forme un conseil d'administration avec un fonctionnement d'équipe. Et j'ai eu la chance parmi les vice-présidents, parmi ceux qui étaient adhérents à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir effectivement 10 personnes qui m'ont dit « Banco, nous on y va avec toi Michel et on continue cette association », parce qu'il y a un acquis qui est extraordinaire, parce que 40 ans d'histoire d'une association, il y a des publications, il y a une mémoire, il y a des recherches, il y a des choses qui ont été trouvées, il y a un musée, puisque Philippe Coulon a participé à la création d'un espace patrimoine, hein, du temps où il était président de l'académie, et tout ça, c'était bête que ça se perde, je dirais. Donc, ces 10 personnes-là, il y a depuis 3 ans, travaillent avec moi d'arrache-pied pour continuer tout ce travail et surtout le faire évoluer. Voilà, c'est ce qui nous intéresse dans cette association, c'est de le faire évoluer et de l'adapter aux années qui viennent.
Alors, dans la deuxième partie, on verra bien sûr cette évolution et puis on verra les projets. Moi, dans un premier temps, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu l'équipe, comment on fait une équipe qui marche, parce que ça intéresse aussi peut-être toutes les associations. Est-ce que il faut être vraiment passionné? Est-ce que ce sont des gens qui viennent tous du bâtiment ou quel est un petit peu leur cheminement pour arriver à faire une équipe soudée et qui vont dans ce futur projet dont vous allez nous parler, qui font que il n'y a qu'une voie.
Bon, en fait, c'est l'envie de travailler ensemble sur un même sujet, mais dans le respect de nos itinéraires et de nos caractères. Dans l'association, on a un ancien dans son conseil d'administration, on a un ancien chimiste, on a un ancien médecin, on a une secrétaire, on a des gens d'origine très très différente. La recette, s'il y en a une, c'est effectivement de travailler en groupe, de faire des conseils d'administration où chacun peut prendre la parole, de faire des comptes rendus. Le respect, en fait. Voilà, le respect.
Et bien sûr, on va rester sur le respect, on va envoyer une petite pause musicale.
RTVFM, l'esprit jeune. Let's move and gay and get it on.
This king says to ourselves, don't have to share with no one else, don't keep your secrets to yourself, it's Kama Sutra show and tell.
Je suis toujours avec Michel Grillet, président de l'Académie de Baume de Venise. Donc cette association de conservation et de promotion du patrimoine, je suppose, et j'en suis sûr, qu'elle a un beau projet. Et j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu.
Oui. Alors, Si vous voulez, aujourd'hui, l'association, on travaille sur 4 thèmes. On a des conférences, des concerts et des sorties qu'on organise. On a des chantiers bénévoles. On fait des recherches documentaires, des publications. Et puis, on s'est fixé une mission d'accueil du public. Et parmi ces 4 choses-là, il y en a une qui, moi, personnellement, me tient en tant que président particulièrement à cœur. C'est ce qu'on appelle le projet Courrince. On a eu l'idée, en fait.
Alors, pourquoi Courrince, déjà? On va partir du départ, parce que c'est vrai que je vous sens très motivé, très emballé. Mais bon, pour que les auditeurs puissent comprendre, il faut savoir ce que ça veut dire Courrince. Pourquoi Courrince? Et qu'est-ce qui vous amène surtout à faire ce projet?
Alors, Courrince, c'est le nom du plateau qui surplombe Baume de Venise, qui est un plateau qui est juste avant le démarrage des dentelles de Montmirail. Et donc, ce plateau accueille plusieurs patrimoines très très importants de Baume de Venise. Sur le plateau, il y a la chapelle Saint-Hilaire, il y a le château du Castellas, il y a la carrière d'Aubune, et au pied de ce plateau, il y a la fameuse chapelle d'Aubune, qui est un joyau de l'art roman. Et le projet Courrince consiste à se dire qu'on peut utiliser tout ce patrimoine, non pas pour le préserver et pour le mettre sous une cloche de verre, mais plutôt l'utiliser comme support d'activités économiques, d'activités culturelles et d'activités aussi liées à des associations d'insertion, au développement de certaines activités économiques. Voilà. Donc l'idée du projet Courrince, c'est de se dire qu'un patrimoine, pour le transmettre aux générations futures, eh bien, utilisons-le pour qu'il serve aujourd'hui. Et on s'est rendu compte à l'occasion d'une expérience qu'on a fait avec l'ACAR, bon, qui hélas a disparu aujourd'hui, qui est une association d'insertion. On s'est rendu compte en créant le jardin médiéval d'Aubune, qui est un jardin qu'on a créé donc derrière Aubune, qu'il était très très intéressant de travailler avec ce type d'association, parce que d'abord on faisait se rencontrer des mondes qui se rencontrent jamais, et puis surtout on arrivait en réunissant toute une série de compétences à faire un ouvrage très très intéressant. Donc le jardin médiéval est une des premières finalement réalisations du projet Courrince, mais on en a beaucoup d'autres.
Voilà. Alors après, vous avez parlé de conférences, vous avez parlé de tas de petits points que j'aimerais qu'on développe. On commence par lequel?
Alors on peut commencer par les conférences, les concerts et les sorties. Donc ça, c'est Jean Dubuisson du conseil d'administration qui mène ce programme. Donc bah, le 19 février, on a par exemple une conférence sur Madame de Russe, qui était une balméenne du 18e siècle, assez intéressante parce qu'elle a construit sans autorisation à côté de la chapelle d'Aubune. Il y a eu un procès, enfin voilà. On a une conférence sur Camille Claudel également le 25 mars qui va être tenue par Jocelyne Barbier, qui est documentaliste à l'hôpital de Montdevergue. On a également donc une visite du vieux village des Angles sur les pas des Fées Libres, et puis on a une promenade le long du pont du Gard, parce qu'on connaît le pont du Gard mais on connaît moins tous les ouvrages qui amenaient l'eau de part et d'autre du pont du Gard. Donc on a prévu également une visite comme celle-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les chantiers bénévoles.
Alors, je voudrais peut-être revenir un peu sur le point, parce que les auditeurs qui nous écoutent, toujours pareil, il faut leur dire aussi, est-ce que ça a un coût? Comment on fait pour accéder à ces conférences? Et puis, où on voit vos flyers, enfin vos affiches?
Oui, alors, c'est simple. Non, les conférences sont gratuites. Les sorties, il faut être adhérent à l'Académie pour des problèmes d'assurance, bien entendu. Mais les conférences sont gratuites. Elles sont souvent donc dans une salle donc à la mairie de Baume de Venise. Et pour trouver tout ce programme, il suffit d'aller sur notre site academy-baume.fr.
Voilà, tout ça, on en reparlera après. Voilà. Là, on va continuer sur le projet.
Oui. Alors, vous me parliez donc d'autres choses qui sont autour du projet Courrince. Il y a donc les chantiers bénévoles. Donc, les chantiers bénévoles, on s'est dit qu'il était intéressant d'aborder la question du patrimoine en se mettant au travail. Parce que quand on est sur un site, finalement, et qu'on travaille dessus, on découvre des éléments sur son histoire, et puis on apprend des choses. Donc, on a créé des chantiers bénévoles qui ont lieu tous les lundis matins. Sur lesquels on travaille. Et puis il y en a un qu'on ouvre le samedi 27 février, où là on va l'ouvrir à ceux qui ne peuvent pas venir le lundi, par exemple. Donc avec ce fonctionnement-là, ben, on a différents chantiers. Actuellement, on travaille sur Aubune, on continue les murets autour du jardin médiéval.
Alors, c'est vrai que je vais sortir un petit peu du projet. Deux petites minutes, juste pour nous expliquer combien il y a d'adhérents. Oui. Ce qui serait intéressant de savoir par rapport à l'association.
Oui, on est 90 adhérents aujourd'hui.
Et
on a, dans les bénévoles, on a une équipe de 15 bénévoles qui travaille quasiment donc tous les lundis matin.
Voilà, ça c'est une petite aparté, mais je trouve que c'est très intéressant de savoir que c'est une quand même une association très très active.
Oui.
Très dynamique.
On a la chance d'avoir des adhérents qui nous suivent dans nos idées. On a des Balméens qui commencent à nous donner du patrimoine. On a Claude Millot qui nous a donné une ancienne cave qui s'appelle la cave de l'Arc de Venasque. Et puis surtout récemment, on a la famille Lédier qui a donné tout le site du Castellas à la commune pour qu'on travaille dessus, nous, Académie, sur la mise en valeur de ces ruines. Donc ça aussi, ça nous intéresse, parce qu'il y a non seulement des adhérents, mais il y a beaucoup de Balméens qui suivent et qui nous font confiance.
Alors, on revient un peu sur... On a été un peu dissipé, oui, là. Ouais. On va revenir sur le projet. C'était un petit peu pour aérer, parce que c'est tellement dense. Voilà, j'aimerais aussi qu'on continue sur ce chantier. Alors, on a parlé d'insertion, on a parlé de conférences, et puis il y a d'autres points. Je le vois sur votre, oui, sur votre petit résumé. Ouais. J'aimerais en connaître un peu plus sur ce fameux projet Courrens.
Alors, le projet Courrens, il va en fait intervenir sur donc, plusieurs sites du plateau. Il va y avoir sur le Castellas des stages qui vont être... des stages de pierre sèche, d'apprentissage de pierre sèche. Il va y avoir une randonnée historique qui va permettre de faire tout le tour du plateau. Et puis, il va y avoir un chantier de jeunesse qui va être organisé à partir de la fin août, qui va accueillir donc des jeunes du monde entier et avec lesquels on va commencer à construire une première cabane de chantier, je dirais, sur le site du Castellas. Parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que notre idée sur le Castellas, c'est de travailler avec des moyens, des méthodes et des outils du Moyen-Âge. Un petit peu sur la même idée que ce qui se fait à Guédelon en Puisaye. Hein. C'est
vous
l'idée...
Repréciser, parce que là, vous êtes dans votre monde, mais
oui.
J'aimerais en savoir plus là-dessus.
Oui, le projet Guédelon, c'est des gens qui se sont dit que finalement, ça serait très intéressant de construire un château du XIIIe siècle avec les outils et les moyens du XIIIe siècle pour apprendre comment on faisait. Donc, c'est un chantier qui existe depuis 20 ans, qui sera fini dans une vingtaine d'années, et c'est assez extraordinaire. Alors, nous, c'est bien plus petit, hein, le Castellas, parce que c'est d'abord des ruines, donc il y a quelque chose d'existant, mais la grosse idée des gens de l'académie, c'est de pouvoir travailler et de redécouvrir les façons de travailler du Moyen-Âge. Donc on commence déjà des petites expériences comme ça d'archéologie expérimentale, parce qu'en fait ça s'appelle comme ça. Dans la carrière d'Aubune, on a par exemple extrait des pierres devant du public avec des escoudes, donc qui sont des outils qui existent même depuis le temps des Romains.
Escoudes, ce sont des outils.
Escoudes, c'est ce qui permettait de faire les tranchées pour ensuite enfiler les coins de pierre et extraire les pierres. Donc on a déjà extrait comme ça deux pierres. Bon, on met beaucoup de temps parce qu'on ne sait pas bien utiliser ces outils, mais on apprend. Et on a fait ça la dernière fois dans le cadre d'une balade en scène organisée par la Cove devant du public.
Et voilà. La Cove est toujours là.
Oui, la Cove nous soutient beaucoup dans ce projet, notamment la directrice.
On va encore faire une petite aparté encore pour savoir qui y a derrière, parce que peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout dire et on est intéressé aussi de savoir les moyens qu'il y a derrière.
La Cove nous fournit surtout essentiellement des moyens humains et notamment donc par le biais de la directrice Stéphanie Collet, la directrice du patrimoine, qui nous soutient et qui nous soutient notamment dans ce projet du Castellas parce qu'elle nous aide à le monter. Voilà, parce que c'est très très compliqué quand même à monter ce genre de projet. Voilà.
Alors une petite question aussi et ça va non, je vais envoyer la pause musicale et puis on reprendra parce qu'on n'a pas fini les points de ce fameux Courrens, projet Courrens, je précise. Voilà. À tout à l'heure pour une pause. Après une pause.
Retrouvez l'intégralité de RTVFM, les podcasts, les émissions, les infos, à tout moment sur le www.rtvfm.net.
Tomber du ciel, de mon sorcel sera du sel. Qui va que je puisse me ranger, mon espoir se morcelle. Aucun lien ne se zèle. Tiens, je reste un étranger, jamais je n'aurais pensé. Un jour tombé amoureux, et la conséquence est que toi seul peux me rendre heureux. Le simple fait d'exister, un petit peu à tes yeux, me pousserait à persister. À nous imaginer tous les deux, même si tu ne me vois pas. Oh Marina, pensons-toi et moi, oh Marina, oh Marina.
n'en serai lassé. Tu ne fais que me fuir, mais je ne veux que t'offrir un bel avenir. Tout deux entrelacés, jamais je n'aurais pensé. Un jour tomber amoureux, et la conséquence.
Avec Michel Grillet, président de l'Académie de Baume de Venise, qui nous parle, mais alors qui nous parle avec passion de son projet qui s'appelle le projet Courrens. Et puis peut-être là, je vais lui demander un petit peu au niveau des investissements personnels et puis surtout le financement. Parce que on a vu qu'il s'agissait de passionnés, mais dans la passion, malheureusement, il y a toujours ce petit volet argent, hein, ça s'appelle comme ça. C'est un financement. Il y a une personne qui me semble importante dans ce projet au niveau du financement, et Michel va nous en parler, il s'appelle Pierre. Hein, votre...
Oui. Oui, alors pour parler du financement, on a eu la chance effectivement pour avancer de faire la rencontre de Pierre Brouard qui est un balméen, je dirais, d'origine, et qui nous a proposé, Pierre il est consultant et entrepreneur social, et il nous a proposé de nous aider à trouver les financements pour lancer une étude de faisabilité, parce que pour lancer un tel projet, il faut qu'on vérifie, quand on dit qu'on va vendre des stages de pierre sèche ou qu'on va accueillir des écoles ou faire travailler des associations d'insertion, il faut qu'on vérifie qu'au financement on réussit à terme à être autonome et être capable de trouver des aides pour démarrer et pour vérifier la faisabilité de toute cette opération. Et donc Pierre Brouard nous a aidés, on est sur le point de boucler notre financement. On a un grand espoir donc avec ESIA, qui est la filiale régionale de la BPI, hein, la banque publique d'investissement, et qui va donc nous aider beaucoup à lancer cette étude. On a également donc le sénateur Dufault qui va également nous aider. On a la commune de Baume qui bien sûr a beaucoup investi d'abord en temps et va donc mettre également un peu de financement. Notre propre académie va également financer cette étude. On va rencontrer prochainement le conseil départemental qui a priori va nous aider. Et puis la région elle-même en particulier va nous aider après les 6 mois de l'étude de faisabilité. Voilà. Mais donc on a eu la chance de rencontrer Pierre Brouard qui a énormément investi de temps, qui est un jeune, parce que effectivement nous on a un petit peu de l'expérience, mais en même temps on n'a pas l'énergie d'un jeune, et donc Pierre Brouard nous l'a amené, et ça on est très très content de cette rencontre. Voilà.
Alors il faudrait peut-être un peu finaliser sur ce projet Courrens, oui, qui est hyper important.
Oui.
On va pas parler du passé parce que ça c'est vraiment le gros sujet de l'association à l'heure actuelle. Donc on a parlé des conférences,
oui,
on a parlé d'insertion,
oui, des chantiers bénévoles.
Des chantiers. s'il y a quelque chose à rajouter aussi d'important dans ce projet.
Ben, dans le projet Courin, je crois qu'on peut dire qu'effectivement, dès le démarrage de l'étude, c'est-à-dire en principe en mars, on va lancer des actions test. Et donc, il va y avoir comme action test ces stages de pierre sèche, cette sortie donc, générale, et donc toute cette série d'expériences qui vont être sur notre site, parce qu'on va créer un site spécifique. Parce que ça va donner lieu effectivement à une activité particulière de l'Académie. L'Académie continue dans tous ses projets, c'est-à-dire ses conférences, ses sorties, ses chantiers bénévoles, ses publications, parce que je ne vous ai pas parlé des publications, voilà, mais on a pas mal de publications qui sont à l'Office du tourisme de Beaume, sont dans nos locaux. Je ne vous ai pas dit non plus qu'on fait des permanences dans notre musée tous les mardis matins de 10h.
Alors, le musée, il se trouve où, ce musée ?
Alors, il se trouve sous l'Office du tourisme. Et donc on a une permanence, comme ça on fait visiter, parce qu'il y a énormément de choses à visiter.
Il faut contacter par téléphone, comment on fait pour pouvoir avoir accès à tout ça?
Alors le musée, il est ouvert de 10h à midi tous les mardis. Voilà, tous les mardis matins, vous arrivez et le musée est ouvert. Sinon, bah, vous pouvez nous contacter par le biais de notre site. Hein, donc, je le redis, c'est academy-baume.fr. Et puis, vous pouvez m'envoyer un mail à mon adresse donc, de président, michel@academy-baume. Voilà, c'est la meilleure façon de nous contacter.
Alors, nous sommes une radio pédagogique. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est le côté insertion. Donc, on a parlé de jeunes qui vont venir cet été.
Oui.
De quelle manière ils peuvent s'inscrire? Comment vous pouvez les sélectionner s'il y a trop de demandes? Enfin, j'ignore comment ça se passe. Peut-être il y a une marche à suivre.
En fait, des jeunes qui veulent travailler sur le chantier bénévole, le mieux, c'est de nous laisser un mail sur notre site. Le site est organisé pour pouvoir laisser un message. Hein. Il suffit d'aller dans l'onglet « Nos activités »,« Que faisons-nous en ce moment ?» Et là, vous pouvez vous inscrire à ce futur chantier bénévole du 27 février. Parce que ceux du lundi matin, sinon, c'est tous les lundis à 9h. On est à Aubune en ce moment. Donc là, vous nous trouvez, on est sur place. Voilà. Alors. Donc ça, c'est la meilleure façon. Et puis ensuite, ça sera... Mais ça, il y aura une information sur le site de l'Académie. Quand notre site Projet Courin sera créé, là, vous aurez toutes les informations pour vous inscrire, notamment sur le volet insertion. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, je dirais, à part cette expérience qui a eu lieu dans le jardin médiéval avec l'ACAR. Pour l'instant, il n'y a rien de concret au niveau de la partie insertion, si vous voulez. Ça va être mis en place à partir du mois de mars.
Alors, est-ce qu'il faut avoir un certain âge? Est-ce qu'il faut être majeur, par exemple? Non. Est-ce qu'il faut avoir une expérience?
Non. L'idée, si vous voulez, de l'Académie, et notamment de ces chantiers bénévoles, c'est justement l'apprentissage. Bien entendu, si on a des gens qui viennent et qui ont énormément de connaissances, ça nous intéresse. Mais quelqu'un qui veut apprendre à monter donc des murs en pierre sèche, à faire des relevés pour connaître mieux le patrimoine ou faire des visites, etc., ça nous intéresse parce que on considère qu'en tant qu'association, on se doit d'accueillir du public et donc de faire découvrir le patrimoine. Parce que ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est de sensibiliser et de promouvoir. Et on ne sensibilise pas et on promeut. Et on ne promeut pas si on ne prend que des spécialistes. Donc ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir des non-spécialistes, bien entendu.
Et de transmettre,
bien sûr.
Alors moi, on arrive au terme de l'émission, j'aimerais avoir une phrase ou un mot qui pourrait éventuellement résumer votre passion. Et puis, je pense aussi, avec ce fameux projet qui est monté, je vois des graphiques devant moi. Et c'est assez impressionnant parce que c'est d'une technique et d'un... Enfin, je veux dire, c'est vraiment du penser. J'espère que ça va aboutir.
Ben, moi, si j'avais résumé notre démarche, qui est la démarche générale de l'Académie, mais qu'on va mettre en valeur dans le projet Courins, c'est de se servir de tous ceux qui sont passés avant nous, notamment sur le territoire de Beaume, mais qui ont laissé des traces, et d'utiliser des traces pour éclairer, en fait, ce qu'on a à faire pour notre avenir. Et on apprend énormément en regardant ces traces-là. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu à notre micro, une passion de plus qu'on a reçue aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci d'être venu, Michel. Merci encore. Bonne vie et bonne longue vie à votre association. Et puis, je vais présenter notre deuxième invité qui vient d'arriver, André Desserre, président de Ventoux Territoire Truffe, VTT, mais Ventoux Territoire Truffe, je précise, une association qui est fondée pour la mise en valeur de ce produit. un produit très noble, qui est aussi appelé le diamant noir, ça veut tout dire. Il nous en expliquera un petit peu plus tout à l'heure. Cette mise en valeur de ce produit, j'espère qu'André va nous le faire vivre avec passion, comme Michel. À tout de suite.
Radio Territoire Ventoux, l'esprit jeune.
J'ai vécu sous des posters, à me croire le seul à connaître tout de vous. J'en ai refait des concerts, en rêvant de voir apparaître Marie-Lou. J'inventais des lettres à France, en solitaire, en silence. Si je n'ai pas su l'écrire, je voulais simplement te dire que si. Si j'existe, j'existe, c'est d'être fan.
Deuxième partie d'Associativement Votre du 6-02-2016. Vous êtes toujours avec Marlène. Et aujourd'hui, je reçois André Desserre. André Desserre, je l'ai choisi spécialement parce qu'il est en plein dans l'actualité et de l'Office de tourisme aussi. Et puis pour son association qui s'appelle Ventoux Territoire Truffe, VTT, mais Ventoux Territoire Truffe, je répète, une association qui est fondée pour la mise en valeur de ce produit. Donc bonjour André.
Oui, bonjour et bonjour à nos auditeurs qui nous écoutent, auditeurs et auditrices.
Qu'il va falloir passionner par ce produit.
Voilà, que je suppose que si elles sont restées à l'écoute, c'est parce qu'elles ont entendu parler de cette truffe que l'on appelle ici en provençal rabasse.
Rabasse. Oui, parce que j'ai vu André Dessert rabassier.
Oui.
Alors, rabassier, voilà. C'est l'explication du mot.
Pour planter le décor, puisque les auditeurs ne peuvent pas nous voir, mais vous avez vu, je me suis présenté à vous avec un chapeau et puis la tenue du rabassier avec mon fidèle compagnon qui s'appelle Jules.
Alors qui c'est Jules ?
Ah ben Jules, c'est un Jacques Russel que je suis en train de former pour caver les truffes.
Cavé.
Alors ça, c'est encore
du mot
un homme,
cavage, mais ça c'est technique, ça.
C'est un homme barbare cavé qui a une connotation de cave, c'est-à-dire de souterrain. Parce que, bon, je vais vous l'expliquer tout au long de cette émission, la truffe, la rabasse en provençal, est un champignon qui ne pousse pas sur le sol, mais dans le sol. Et qui a une vie vraiment extraordinaire et mystérieuse, puisque encore aujourd'hui, en 2016, on n'a encore pas percé tous les secrets de cette rabasse.
Alors, tout à l'heure, on reviendra à la truffe dans le deuxième volet. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi André, il s'est passionné dans ce produit, qui est bien de chez nous, parce qu'il n'est pas que du Périgord. Voilà, c'est peut-être ce qu'il faut préciser.
Non, le Périgord, presque, je suis pas chauvin, mais je ne connais pas. Je ne sais pas où c'est, le Périgord. Pour vous dire, puisque vous me tendez la perche, la production de rabasse ici, c'est 80% du sud-est, et je parle. C'est 80% de la production française. Alors, vous voyez ce qui
80%,
reste.
80%, voilà. Il faut le préciser, ça.
Oui, mais parce qu'on dit la truffe du Périgord, c'est un pléonasme. Parce qu'on devrait dire la truffe de Périgord, comme on dit le champignon de Paris ou le raisin.
Alors, est-ce que nous on dit la rabasse du Ventoux par exemple ?
Ah ben la rabasse du Ventoux, c'est une truffe qui est sauvage. Donc lorsque on regarde cette truffe-là, elle est pas jolie, elle est pas bien ronde, elle est pleine de, pas de trous, mais elle est cabossée parce qu'elle a poussé dans le sol du Mont Ventoux, c'est-à-dire le sol de caillouteux. Voilà.
Alors, on va revenir sur André. Moi, André, parce que je vois écrit le siffleur de Carpentras, mais qu'est-ce que c'est ça ?
Alors ça, c'est une longue histoire qui a duré pratiquement il y a 20 ans, où on m'avait demandé de m'occuper du marché aux truffes de Carpentras. Et depuis 20 ans, j'ai l'honneur et le plaisir, à 9h très précises, d'envoyer le coup de sifflet qui annonce les transactions de la vente des truffes. Moi, le marché aux truffes que je m'occupe, c'est un marché de professionnels où les truffes se vendent au kilo.
Oui, parce que on me dit toujours la truffe se vend sous le manteau. Est-ce que c'est vrai, ça ?
Alors là, vous voulez me mener sur un terrain qui est très...
Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment quand même contrôlé, le siffleur arrive, comment ça se passe, voilà. Une matinée, un vendredi matin, par exemple,
moi, je vais
sur le marché de Carpentras.
Je vais vous expliquer comment fonctionne le marché aux truffes de Carpentras, qui est historiquement le plus ancien de France, puisqu'il date de 1155. Le comte de Toulouse, Raymond V à l'époque, avait même décrété qu'il n'y aurait pas d'autre marché aux truffes entre l'Essorgues et Louvèze. Et ce monsieur, comme toujours et comme tous les esquisiatiques, ils sont intéressés. Donc ceux qui avaient des truffes à vendre payaient une taxe. Et ceux qui avaient acheté des truffes, qui ressortaient de Carpentras avec des truffes, eh bien payaient aussi une taxe. Alors
vous voyez
que l'histoire que la truffe se vend bien, ça date de 1155. Et là, on a des écrits à la bibliothèque d'Egbertine où, effectivement, en 1155, le comte de Toulouse, Raymond V, avait dit « Il n'y aura pas d'autre truffe de marché aux truffes entre les Sorgues et Louvèze. » Voilà, c'est à Carpentras. Alors, comment fonctionne le marché aux truffes de Carpentras ? Marché de professionnels, puisque si vous avez des truffes à vendre, il vous faut préalablement avoir fait la demande au service Foire et Marché, qui va vous demander de remplir un dossier. Ce dossier, qu'est-ce qu'on vous demande ? On vous demande si vous êtes propriétaire de votre terrain, avec un papier de la MSA qui prouve que vous êtes propriétaire. Si vous n'êtes pas propriétaire...
MSA, peut-être que si quelqu'un ne connaît pas...
MSA, tous les agriculteurs connaissent.
Ah, mais il faut être agriculteur pour ça, alors ?
Ben oui.
Ah, ben voilà, il faut préciser qu'il faut être agriculteur.
Alors,
quand même.
Par contre, si vous n'êtes pas agriculteur, c'est ce que j'allais vous dire, si vous n'êtes pas agriculteur, que vous n'avez pas de terre, vous avez la permission d'un propriétaire qui lui en a et qui vous donne une permission écrite, comme quoi vous pouvez caver sur ces truffes. n'attendez pas que je vous dise creuser tout au long de cette émission. Pour moi, c'est, je vais vous employer des termes bien, qui sont bien provençaux. Carré, la rabasse et compagnie.
Mais c'est ce qu'on cherche, hein, à Carpentras.
Oui, mais vous savez, les gens qui s'intéressent à la truffe et qui aiment la truffe, ce sont des gens de bon goût.
Ah. Voilà.
Et contrairement à ce qu'on peut dire, la truffe n'est pas un produit de luxe. Contrairement à ce que... Bon, c'est vrai que la truffe, par exemple, tenez, je vais vous donner un indice, ce vendredi, la truffe s'est monnayée à 480 € le kilo. Malheureusement, en ce moment, c'est une très mauvaise année.
On peut dire la fourchette, quand la truffe est en
entre,
bas.
Mettons entre 500 et 600 €. Voilà. Donc, on fait une petite moyenne, on fait la règle de 3, ce qui a fait que vendredi, ça fait une moyenne de 480 € le kilo. Voilà, vous voyez que c'est quand même abordable, parce que quand on sait qu'une truffe quand même de 50 grammes, vous pouvez faire plaisir à 5 invités. Parce que nos hôteliers qui ont décidé et qui ont signé une charte, ils se sont engagés à faire 10 grammes de truffe dans chaque plat. Alors, vous voyez, alors la truffe, je ne sais pas si vous connaissez la truffe.
Oui,
je vous en ai amené une, peut-être que vous
la
sentez d'ici.
On
la
prendra en photo tout à l'heure, parce que franchement, elle vaut le coup. Là.
Ah, elle est belle en plus.
Ah, elle est énorme.
Hein. Ah, elle est énorme. Alors, il faut que je vous explique aussi, puisqu'on parle de truffe, que je vous ai expliqué que la truffe est un champignon qui ne pousse pas sur le sol, mais dans le sol. Et cette truffe, vous le voyez, donc ça, c'est une mélanosporum, c'est-à-dire qu'on l'a baptisée aussi diamant noir. Pourquoi ? Parce que vous voyez,
voilà,
on dirait qu'on l'a sculptée. Et cette croûte de la truffe s'appelle le péridium. Et la chair de la truffe, qui est très estimée et très goûteuse, s'appelle le gléba.
Alors, on va faire une petite pause musicale et on va reprendre, évidemment, sur l'explication de la truffe.
Ah, c'est dommage parce que j'étais parti, là.
Il était parti, mais je vais en faire repartir tout à l'heure. Mais il nous faut une petite pause musicale.
Découvrez les hits de demain avant les autres. Avant les autres. We'll be right back.
toujours en présence d'André Dessert, président de Ventoux Territoire Truffe, VTT, mais Ventoux Territoire Truffe, je précise, parce qu'il y tient. C'est une association qui a été fondée pour la mise en valeur de ce produit, qui est bien de chez nous et bien du Ventoux. Il nous l'a précisé tout à l'heure, qu'il ne faut pas dire la truffe du Périgord, mais de Périgord. Et nous avons la truffe du Ventoux. Cette truffe, elle se trouve dans une truffrière, c'est ça ? Il va me corriger ?
Dans une truffière.
Une truffière, voilà. C'est pour ça qu'il est là, parce qu'il me corrige, effectivement. Moi, je suis pas du milieu. J'aime la truffe, mais la truffière, je ne connais pas.
Donc, vous aimez la truffe, vous êtes une personne de bon goût, je l'ai dit.
Ah, alors, on va répéter. Tous ceux qui aiment la truffe sont des personnes de bon goût. Avis aux Carpentraciens qui nous écoutent.
Et puis,
bien sûr,
à
tous ceux qui nous écoutent.
On les invite à venir la découvrir.
Et il nous fait une petite invitation, là, sur place. Alors, se passionner... André, moi, j'aimerais le connaître un peu plus. Il vient à la truffe, il en parle super bien, mais derrière, de bien avoir quelque chose, quelqu'un peut-être.
Ah ben oui, ben c'est un peu mon grand-père qui m'a donné l'envie, parce que je partais avec lui le matin de bonne heure avec le chien, pas avec le cochon, parce qu'on peut caver les truffes avec un cochon. On a trois façons de trouver les truffes avec un cochon. Mais je vous mets au défi de mettre un cochon dans votre voiture. Il vaut mieux un chien comme le mien, par exemple comme Jules, qui est un Jacques Russell. Il y a d'autres races de chiens. D'ailleurs, tous les chiens peuvent caver les truffes. À partir du moment où on les dresse et qu'on leur fait comprendre que c'est ce que le maître attend d'eux. Parce que finalement, le chien qui trouve la truffe, c'est pas pour lui, c'est pour faire plaisir au maître.
Alors, cette éducation de chien, on peut le faire soi-même ou il y a des écoles pour ces chiens ?
Non, c'est sur le coup. Chacun a un petit peu sa recette pour que le chien trouve les truffes.
Alors, il les trouve où, ces truffes ? On a parlé de truffières, c'est ça ?
Dans une truffière, alors merci de me tendre la perche, parce que c'est truffière quand même. Il faut savoir qu'à l'époque, en 1900 et quelques, ou même bien avant, on trouvait des truffes en grande quantité, mais dans des truffières qui étaient naturelles. C'est-à-dire que les arbres, c'est-à-dire les essences d'arbres qui sont le chêne blanc, le chêne vert, ou le tilleul, ou le pin d'Alep, produisaient naturellement des truffes. Donc on a cru longtemps que ça durerait toute la vie. Mais malheureusement, les arbres, c'est comme les hommes, ça vieillit, ça périclite. Et donc il y a quelqu'un à Saint-Saturnin-les-Alpes qui s'appelait Joseph Talon, qui lui avait découvert un jour qu'en plantant des glands d'un arbre qui produisait de la truffe, ce gland produisait un petit plant. Il a pris ce plant, il l'a planté, et il s'est aperçu au bout d'un moment que ce plant produisait des truffes. Alors, il n'a rien dit à personne, un petit malin, hein. Il a acheté des terres autour de lui qui ne valaient rien, et il a planté ces plants qui étaient issus de glands qui étaient pratiquement au départ mycorhizés. La mycorhize, c'est le germe de la truffe qui est dans le sol. Et voilà donc la première truffière qui a été créée, et ça on le doit à Joseph Talon. C'est pour ça que je tenais à ce qu'on y rende un hommage. Et bien sûr, il a gardé le secret longtemps, mais au bout d'un moment, quand même, comme tout secret, les secrets sont dévoilés. C'est Eugène Rousseau de Carpentras, qui était un courtier et conserveur de truffes, qui a acheté ces plants à Joseph Talon, et lui aussi a planté une truffière. Et cette truffière, eh bien, lui a rapporté quand même la médaille d'or. Je cherche...
Alors, André ?
Ah, oui, voilà. Alors,
Auguste Rousseau, il m'a tellement dit de choses.
Négociant en truffe, fait la même chose en 1847, vous vous rendez compte, achète ses plants à Talon, présente ses truffes à l'Expo universelle de Paris, et il obtient même, et ça c'est grâce à Joseph Talon, la médaille d'or grâce à sa méthode, c'est-à-dire de planter des glands, et des glands qui vont, il va y avoir un petit arbre qui va pousser, et cet arbre-là on le plante, et c'est là qu'est partie la première création des truffières. Alors maintenant, vous avez les truffières qui sont plantées, et il faut savoir aussi que si vous plantez une truffière de quelques mètres carrés, vous la déclarez aux impôts, et de 50 ans, vous ne paierez pas la taxe foncière. Voilà, ça, il faut le savoir. Les auditeurs qui nous écoutent, j'ai bien dit, 50 ans, vous ne payerez pas la taxe foncière. Et ça, nous le devons aussi à notre ancien président des FUN, de Saint-Didier. Qui...
Ah, c'est uniquement sur Saint-Didier ou c'est tout
oui,
le
mais
sud
parce qu'il
c'est...
était président.
Non, mais cette loi.
Président du syndicat des trufficulteurs du Vaucluse.
D'accord, Gilbert, on avait un Vauclusien.
Gilbert Espenon, qui malheureusement est décédé. Voilà.
D'accord. Et alors, pour cette truffière, là, truffière, je vais y arriver, truffière.
Truffière.
Truffière. Il faut donc des animaux. Il faut quelqu'un qui s'y connaisse ou c'est juste
alors,
l'animal qui fait.
Je vous ai parlé du cochon et je vous ai oui. parlé du chien, mais il y a aussi la mouche. Ah, ah ben c'est voilà. une mouche spéciale. Alors, lorsque vous n'avez pas de chien, vous n'avez pas de cochon, mais que quand même vous avez quelques indices, à savoir qu'un chêne blanc ou un chêne vert peut produire des truffes, vous vous promenez dans la campagne et à un moment donné, vous allez aller au pied d'un arbre, un chêne blanc ou un chêne vert, surtout s'il y a un brûlé. Alors le brûlé, c'est quoi ? C'est un cercle qui est autour de ces arbres-là où l'herbe ne pousse pas, ce qui signifie que cet arbre-là produit de la truffe. Et alors là, à l'aide d'une petite baguette, vous tapez un peu le sol, et dès que vous voyez cette fameuse mouche qui s'envole, vous la suivez des yeux, et inéluctablement, elle va se poser à l'endroit où il y a une truffe. Pourquoi ? Parce qu'elle va pondre ses œufs, elle le sait par instinct qu'en pondant ses œufs, ses œufs seront nourris à cette fameuse truffe. Et alors là, bon, ben, vous avez à l'aide d'un piccolo.
C'est un
instrument qui sert à caver les truffes. Voilà, c'est un picon. Alors, il y en a qui ont des picons, il y en a qui ont une tournevis. Enfin, chacun aussi a sa méthode pour caver les truffes. Alors, vous voyez, c'est complexe.
Et
alors, cochon, chien
ou mouche.
Ou mouche.
Alors, un peu plus d'infos peut-être sur la truffe elle-même. On va repartir un petit peu sur l'explication parce que tout à l'heure, on a parlé
oui,
donc...
Oui, on a un peu dérivé là.
Voilà, on a dérivé parce qu'on est tellement passionné par ce diamant noir, hein, quand on parle de diamant évidemment. Il y a beaucoup de monde qui écoute. J'aimerais que vous nous disiez un peu plus parce qu'on en était à l'enveloppe et tout ce qui touche...
Ah, vous avez oublié déjà.
Non, j'ai pas oublié,
c'est
mais je veux qu'on
le
précise. Le péridium.
Le péridium. Et la chair de la truffe, c'est le gléba. Alors, vous avez deux sortes de truffes ici qui sont majeures. C'est la tuber mélanosporum, qui est la reine des truffes. En dessus d'elle, il n'y en a pas. Par contre, vous avez une qualité de truffe inférieure à cette truffe-là. C'est la brumale. Alors, la brumale, le péridium n'est pas le même. Il est un peu plus lisse. Et surtout, à l'odeur, n'est pas le même. Mais autrement, visuellement, c'est une truffe. Voilà.
Alors moi je suis de bon goût comme vous avez dit tout à l'heure, je vais sur le marché de Carpentras un vendredi matin, je veux acheter une truffe, est-ce que je me base au prix, est-ce que je me base
à
la tête de la truffe là que je vois, là que vous, ouais j'ai envie de manger, elle est là, elle est en face de moi, comment je fais pour la choisir ? Je n'y connais rien mais j'aime la truffe.
Alors d'abord si vous voulez acheter des truffes, vous avez deux possibilités. Si vous êtes trufficulteur et que vous avez fait la demande au service Forêt Marché, on va donc vous faire remplir ce fameux dossier dont je vous ai expliqué. Ce dossier, on vous fournira une carte d'accès au parking gardé pour votre voiture et une carte pour pouvoir accéder au carré réservé aux professionnels. C'est-à-dire que moi, mon rôle est à 9h précise d'envoyer le coup de sifflet. De là, c'est pour ça qu'on m'a appelé le siffleur de Carpentras, mais c'est beaucoup d'honneur pour moi. Donc,
enfin,
ce qui veut dire
je vois un hors série La Tribune car même secret de truffe
et je vois la belle photo
d'André André Dessert, Rabassier, le siffleur de Carpentras.
Voilà. Donc j'étais en train de vous le dire. Vous essayez de
non, me, oui, non mais je suis devant la photo.
De me troubler mais vous n'y arriverez pas. Donc à 9h précise, j'envoie le coup de sifflet, ce qui veut dire que les gens qui ont des truffes à vendre, c'est-à-dire des rabassiers, ils sont là avec leur production qui attendent que le coup de sifflet de 9h, là, entre sur ce carré que les professionnels, c'est-à-dire les
restaurateurs. Voilà, expliquez-moi, parce que je ne dois pas arriver trop tôt. C'est à quelle heure le premier coup de sifflet ? 9h, on avait dit ?
9h.
Alors 9h, oui, mais à 9h, est-ce que moi, en tant que particulier, je vais pouvoir avoir accès à la truffe ? Non ?
Non.
Eh bien voilà,
non.
Alors qui
non.
arrive ?
Vous n'aurez pas accès à la truffe.
Eh bien, bien sûr que non, c'est pour ça.
Si
je n'étais
pas,
prix,
si j'étais pas l'antenne, je vous dirais comment il faut faire. C'est-à-dire il faut faire comme beaucoup font. avant le coup de sifflet et en dehors de ce carré de professionnels. C'est-à-dire que s'ils connaissent une personne qui a des truffes avant le marché, bon.
Alors quand on dit professionnel, il y a qui là-dedans ?
Alors vous avez les restaurateurs, vous avez les trufficulteurs, ceux qui ont des truffières, hein, je viens de vous l'expliquer. Mmh. Qui ont 1 kg, 2 kg, 10 kg quand c'est la bonne saison. Vous avez les gens qui. Restaurateurs, conserveurs. Et j'en oublie, mais enfin bon.
Voilà, donc en fait, ce sont des gens du métier.
C'est des professionnels, mmh. Voilà.
Non, c'est pour savoir un peu dans le professionnel, parce que j'ai vu beaucoup de cuisine autour de la truffe, surtout en ce moment. Je vois qu'Epicurium aussi a fait venir un grand cuisinier là pour faire une ouverture. C'est samedi 27 février, mais il n'y a plus de place. Hein. C'est contact@epicurium.fr au 04 32 40 37 71. C'est une association qui a fait venir un grand chef. Et ce grand chef, c'est Christian Etienne. Donc on voit quand même que les grands chefs s'y intéressent.
Christian Etienne, que j'ai eu l'honneur d'introniser dans notre confrérie d'ailleurs.
D'accord. Voilà. Eh ben c'est bien ça.
Parce que j'ai ce rôle aussi de grand maître de la confrérie. Et donc.
Et pas le même chapeau que tout à l'heure.
Ah, pas. C'est pas le c'est même. Ah, si, c'est pareil. C'est la tenue du rabassier. Si. Donc, nous avons intronisé, enfin, j'ai intronisé 37 personnes depuis la création de cette confrérie qui a été créée le 19 octobre 2014.
Alors, vous voyez, depuis... quel est le rôle de, quand on est intronisé, on fait quoi ?
Eh bien, c'est-à-dire que vous
on a juste notre nom écrit sur un papier
à faire la promotion, à promouvoir la truffe dans votre village, dans votre département, dans la France et dans le monde entier. Pourquoi pas, voilà.
Alors, comment on peut faire par des, par exemple, quand on est en restaurant,
il faut avoir quand même quelques affinités avec la truffe. Et on n'intronise pas quelqu'un qui n'aime pas la truffe. Donc, à ce moment-là, il s'engage à faire la promotion de la truffe, je vous dis, dans le compte à Venessin en particulier, et dans le monde, pourquoi pas, pour faire la promotion de la tuber mélanosporum.
Et je précise qu'en ce moment, à l'office de tourisme, il y a une expo sur la truffe.
Oui.
Voilà. Et les 5, 12, 19 et 26 février, donc pendant ces vacances scolaires, là, et les vendredis, donc ça se trouve être des vendredis, il y a toute une animation autour de la truffe avec un accueil, avec une consommation. Enfin, vous avez à téléphoner. Pour plus d'infos, vous les avez sur le 04 90 63 00 68, 78, je répète, 04 90 63 00 78. Ça, c'est l'office de tourisme qui vous propose une animation autour de la truffe. Par contre, moi, André, juste un dernier mot pour savoir où on peut vous trouver et si votre association va perdurer.
Ah oui, je l'espère. Alors pour me trouver, c'est facile. Il suffit de s'adresser à Séverine, qui est à l'office du tourisme. Si vous êtes 2, 3, 4, 10, 20 personnes, à ce moment-là, Séverine m'appelle chez moi en me disant « Vendredi prochain, vous aurez un groupe comme ça. » Et donc, je leur explique comment fonctionne le marché de Carpentras et je leur explique ce que c'est qu'une truffe.
Je vous remercie, André, d'être venu à notre micro. Et puis, longue vie à la truffe.
Ah, je l'espère. De toute façon, la truffe dure depuis la Mésopotamie. Vous voyez, on avait trouvé... sur une tuile des traces de la truffe, donc bonne route.